1h et presque 3 minutes sur France Info, l'heure des informés avec Olivier Delagarde et ses invités.
France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous, nous vivons décidément une époque formidable parce qu'après les épidémies, voilà le grand retour du déluge. Vous avez vu ces images effrayantes de la vallée de la Vésubie, on va y revenir ce soir dans les informés. Et puis il y a aussi des informations qui comme ça nous disent que tout ne tourne plus tout à fait rond dans notre belle planète. On n'avait pas pensé à ranger jusqu'à présent le Québec parmi les dictatures les plus invraisemblables. Mais voilà, sachez-le, les policiers de la belle province peuvent désormais entrer chez les gens pour vérifier qu'ils ne reçoivent pas d'amis à leur domicile. C'est désormais interdit et sur le coin de table de la cuisine, le policier québécois pourra vous dresser un PV de 1 000 $ si vous dînez avec des voisins. Et tout cela évidemment avec les meilleures intentions du monde. Alors je ne sais pas ce qui nous attend, nous. Mais en revanche, je signale d'ores et déjà aux forces de police qu'ils n'auront pas besoin de s'immiscer subrepticement dans le studio des informés. Ils peuvent juste se contenter d'allumer la radio sur France Info ou de se brancher sur le canal 27 de la TNT pour voir leur bobine. Bonsoir Hélène Pilichowski.
Bonsoir Olivier.
Éditorialiste politique, merci d'être avec nous ce soir.
C'est un plaisir.
Un petit accrochage, c'est formidable que vous soyez là. Avec nous également Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Émilie Zapalski à côté de vous, communicante. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes la fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Et puis Arnaud Benedetti, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne. Voilà, ils sont sains de corps et d'esprit. Ils ont signé une décharge pour nous certifier qu'ils n'en recevaient personne en douce chez eux. Bref, nous pouvons commencer.
Je dois vous dire que j'ai été particulièrement impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je renouvelle ma compassion aux sinistrés et aux victimes et assure tous les habitants de ce territoire de la détermination de l'État à déployer tous les moyens que la situation présente exige.
Voilà, le Premier ministre Jean Castex cet après-midi à Nice, après les conséquences évidemment catastrophiques de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Alors que la nature puisse se déchaîner ainsi, ça on le sait, mais est-ce qu'il n'est pas étonnant que l'on ne puisse pas mieux s'en protéger, Hélène Pilichowski?
Bah écoutez, c'est le réflexe habituel en France quand il se produit une catastrophe naturel, c'est de dire mais que fait l'État ou que n'a pas fait l'État. Dans le cas précis, c'est ça, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on n'a pas prévu, comment ça se fait qu'on n'est pas équipé au cas où il arriverait quelque chose comme ça. Souvenez-vous, à Paris, par exemple, il avait neigé sur la nationale 118, qui vient de l'ouest de Paris, etc.
Donc il y avait des gens qui avaient passé la nuit.
La nuit, des gens avec leurs enfants, la nuit dans la voiture, etc. Scandaleux, mais qu'a fait l'État pour qu'on n'a pas des chasse-neige plus correctes que ça, enfin, etc., etc. C'est toujours comme ça. Il y a même un préfet dans le Vaucluse, il y a quelques années, qui a été condamné à je sais plus quel âge d'ailleurs, le pauvre, il était à la retraite depuis un certain temps, le temps que la procédure avance, parce qu'il n'avait pas prévu. C'était aussi des inondations, je crois. Enfin bon, peu importe. C'est toujours comme ça. En France, on a besoin de ça. Mais vous savez, est-ce que dans le sud, par exemple, on peut avoir les équipements nécessaires pour quelque chose qui est censé arriver une fois toutes les lunes? C'est le cas de dire. Donc c'est ça qui est compliqué quand même.
Non, la question est de savoir si c'est une récurrence de ce type d'événement climatique. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a une récurrence depuis maintenant un certain nombre d'années. On a tous connu à nos âges des événements climatiques, mais vraisemblablement moins fréquents qu'aujourd'hui, en l'occurrence. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Hélène, oui, bien sûr, la culture française, c'est d'attendre que l'État soit là, à un moment donné, pour protéger les citoyens. La réalité, c'est que c'est aussi...
Mais est-ce que c'est pas ça que sert l'État, quand même?
D'ailleurs, c'est quand même la mission première de l'État. Il faut le rappeler, c'est la mission première de l'État. Mais il y a autre chose, c'est que au fur et à mesure que les sociétés techniques, techniciennes se développent, au fur et à mesure, on accepte de moins en moins le risque. si vous voulez. Il y a aussi, cette réalité, c'est-à-dire que notre tolérance au risque diminue à proportion finalement du développement du système technicien, du développement de la technologie. Donc c'est pas propre à la société française, je pense que c'est propre à beaucoup de sociétés occidentales.
Émilie Zabalski.
Moi je pense qu'il y a une question de culture. Je pense que l'État, pour moi l'État, il doit intervenir là-dessus et il doit intervenir plus que sur le court terme qu'on voit là, c'est-à-dire mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on fait, sinistrer, ce qui est très bien là, Jean Castex de venir.
Mais il est dans son rôle. Oui.
C'est le côté prévention. Et je pense qu'il y a un problème de culture dans l'État, c'est la maîtrise des risques. On ne sait pas faire au niveau de l'État. Il y a des entreprises, je prendrais simplement le secteur du BTP, le secteur du bâtiment, ils font ça, mais tout le temps. Risque humain, risque technologique, c'est leur métier. Oui. Et on a l'impression que dans l'État, ça ne passe pas. C'est quelque chose, c'est une culture qui ne passe pas.
Et je suis d'accord. En même temps, dans un pays extrêmement normé, où désormais on peut construire n'importe où, à peu près.
Depuis le début du XXe siècle, on est quand même à 180 événements naturels, dont les trois quarts ont fait des morts. Et c'est quelque chose qui s'accélère. On ne peut pas le nier. Le climat change. La météo n'est pas la même. C'est des choses dont on va devoir se prémunir. Et maîtrise des risques, je pense même à la crise Covid. On est face à des choses qui vont se reproduire, c'est clair, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Il va falloir s'armer peut-être de profils différents au niveau de l'État, parce qu'il faut s'en prévenir. Et moi, le risque zéro, moi franchement, je trouve que c'est un progrès humain, qu'on puisse de plus en plus se dire que l'humain compte avant tout, moi je pense que c'est bien.
Michel Taube.
Oui, mais le problème, c'est que l'accélération, elle s'appelle emballement climatique. Et qu'en fait, on est là dans une dynamique terrible que l'on voit quand même augmenter partout. Enfin, les incendies en Californie, les 35 degrés en Sibérie cet été, ce que l'on vient de voir dans le sud de la France.
Donc, il y a des effets climatiques comme celui-là à cette période de l'année.
Non, mais les faits sont intangibles, ils sont clairs. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et elles sont de plus en plus importantes. Donc il y a un emballement climatique. Moi, je ne parlerai pas de réchauffement climatique ou de variation climatique. Il y a un emballement climatique et on le voit bien. En Californie et dans l'État de Washington, ils le vivent depuis maintenant quelques semaines de façon absolument tragique. Et donc, pour ce qui est de la question qui était posée, l'État, que fait l'État ? Et je pense que l'État, il est un peu démuni, surtout quand c'est que la France. C'est au niveau européen et au niveau international qu'on peut commencer à gérer.
Le deuxième élément, c'est sur la notion de risque.
Bien entendu, on accepte de moins en moins de prendre des risques parce qu'il y a une culture individualiste et l'individu étant très important, il veut être extrêmement protégé. Mais la réalité, c'est qu'on n'en est plus là. C'est qu'avec cet emballement climatique.
Ne vous emballez pas. On va continuer à débattre de ce sujet. Mais il est 20h10 et sur France Info, c'est l'heure du Fil Info avec Frédéric Benyada.
Un paysage de désolation. Jean Castex à Nice, au chevet des sinistrés des Alpes-Maritimes. Le Premier ministre annonce le déclenchement de la procédure de catastrophe naturelle après les violentes pluies torrentielles de ces dernières 24 heures. Ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts. Au moins 8 personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs autres n'ont pas donné de nouvelles. Jean Castex, qui a exprimé sa plus vive inquiétude quant aux victimes potentielles. Il est tombé la nuit dernière plus de la moitié de la pluviométrie annuelle du département. De nombreux ponts, des routes et des maisons ont été emportés par les crues de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée venues alimenter le Var. Conséquence, des villages entiers coupés du monde, sans moyens de communication, sans eau et sans électricité. Ce soir, l'armée a été appelée en renfort. La tempête Alex, qui a également provoqué d'importants dégâts sur la partie italienne de l'arrière-pays niçois, avec les mêmes images de désolation de Vintimille à Prélia. Un pompier est mort en intervention et on dénombre plus d'une vingtaine de disparus. Dans l'actualité également, le choc aux États-Unis après l'hospitalisation hier de Donald Trump, positif au Covid. Le président américain va très bien, il n'est plus sous assistance respiratoire, il n'a pas de fièvre et ne présente pas de signes de complications, indique ce soir le médecin de la Maison-Blanche. Polémique autour du traitement reçu par Donald Trump, une dose d'un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse. Un médicament prometteur mais peu testé et non validé par les autorités sanitaires. Un repenti, entendu aujourd'hui au procès des auteurs des attentats de Charlie Hebdo, l'audition très attendue de Farid Benyettou, le mentor des frères Kouachi. Cet ex-prédicateur aurait joué un rôle clé dans leur radicalisation. C'était l'un des recruteurs de la filière des Buttes-Chaumont. Il se dit aujourd'hui repenti et affirme être allé de lui-même trouver les services de police après les attentats de janvier 2015.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Comment se protéger de la fureur de la nature? C'est notre premier débat ce soir, alors que le bilan est extrêmement lourd dans les Alpes-Maritimes. Vous l'avez entendu, encore 8 personnes toujours disparues. Éric Ciotti est l'invité ce matin de nos confrères de France Bleu. Le député Les Républicains est originaire de Saint-Martin-Vésubie, l'un des villages les plus touchés. Il était évidemment très ému. Mais pour lui, les pouvoirs publics ne peuvent être tenus pour responsables. Toutes les précautions, selon lui, avaient été prises. On l'écoute.
Le risque en termes de prévision avait été anticipé par Météo France. Et il a conduit à mettre en place l'alerte rouge. Le préfet a pris les bonnes décisions de fermer les collèges, les lycées, les écoles. Le préfet a fermé les centres commerciaux hier après-midi. Donc il y a eu cette anticipation du point de vue météorologique. Après, on a un phénomène en montagne d'une ampleur, voilà, j'ai jamais vu ça.
Voilà, Éric Ciotti, ce matin sur France Bleu. Arnaud Benedetti, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? On doit être fataliste, se dire que finalement, ben voilà, ça arrive. Je vous pose cette question d'autant qu'on a vu ces images et qui vont rester dans notre imaginaire collectif, celle de cette maison emportée par les flots avec deux octogénaires à l'intérieur. Image absolument terrible.
Oui, enfin bon, il faut quand même dire aujourd'hui que les capacités d'intervention sur ce type de phénomène sont beaucoup plus rapide que celle du passé. Donc on a quand même incontestablement progressé, si ce n'est dans la maîtrise, mais en tout cas dans les secours que l'on porte très rapidement dans ce type de situation. Donc il s'agit d'un vrai progrès. Ensuite, la réalité, c'est que les pouvoirs publics avaient quand même très clairement annoncé cette tempête. Oui, donc on ne peut pas dire que, je veux dire, ils n'ont pas anticipé, en l'occurrence. Alors, par contre, d'autres problèmes peuvent se poser en termes d'aménagement. En l'occurrence, de savoir si il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a construit ou non dans des zones qui étaient des zones à risque.
Cette maison qui a été emportée, elle n'avait pas été construite récemment. Quoi.
Voilà, donc il y a des sujets qui se posent, en effet, sur la question de l'aménagement territorial. Parfois, vous savez, c'est un vieux débat. Mmh. Au moment du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, je regardais ça avant de venir sur votre plateau, parce que je trouve que s'il y avait quand même une résonance avec ce type d'événement, Rousseau lui-même disant que finalement il y avait une fatalité, qu'il y avait un mal qui existait. Il y a une responsabilité des hommes finalement. Pourquoi a-t-on construit à Lisbonne, bon, au bord du Tage? Bon, c'était une question déjà qui se posait, vous voyez, au XVIIIe siècle.
Mais notre haut commissaire au plan, notre nouveau commissaire au plan, François Bayrou, va peut-être nous dire comment on peut anticiper d'ici 15 ans ce genre de phénomène. Effectivement, ça va être très compliqué.
Je voulais simplement dire que sur le plan de prévention des risques, il a été fait en 95. On n'a pas pensé qu'il y avait des immeubles ou des maisons construites avant 95 qui pourraient être démolies ou qui pourraient être changées parce que justement elles sont sur des zones à risque. En fait, on a une pensée très court-termiste. Les urbanistes vont se suivre là pour dire il faut faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose pour ces inondations. Tout ce qu'on voit, et c'est vrai que c'est pas nouveau, Vaison-la-Romaine il y a 25 ans, il y a tout ça. Mais si on ne fait rien, on va toujours arriver avec la réponse après coup, on essuie, on constate les sinistrés et c'est tout. Je pense qu'en termes d'urbanisme, il y a quelque chose à faire, on a à réfléchir, pas seulement sur des coins comme ça qui sont inondables, sur des villes aussi, hein, parce que sur les villes, les derniers éléments qu'on a eu des inondations, c'est des villes où on a tellement construit que l'eau, elle peut plus rentrer dans la terre, il y a plus d'endroits, et ça c'est une véritable réflexion qu'il faut avoir dès maintenant, parce qu'en effet ça se construit sur 20 ans, sur 30 ans, c'est des modalités d'urbanisme, peut-être changer les règles d'urbanisme et aider
nouveau,
les communes.
Parce qu'on les a à chaque
fois. Aider aussi les communes qui sont toujours entre pression du permis de construire et la pression de cet urbanisme un petit peu qui nous préserve.
Les soupirs que vous venez d'entendre,
c'est pas ça, c'est que j'admire effectivement l'enthousiasme d'Émilie. Ah oui, et puis ça.
Ouais, quand elle dit ça, elle se fout de vous quand même.
Non, mais c'est vrai,
c'est pas grave, moi j'y crois quand même. Je pense qu'on peut changer.
La France n'est pas un très grand pays, je parle géographiquement bien sûr, mais on ne peut pas dans tous les coins, parce qu'avec un relief extrêmement varié, de la montagne, des fleuves, etc., qui n'est pas parfaitement maîtrisé partout, parce que je pense que effectivement,
en raison plat,
mais sur des zones très à risque, est-ce qu'il faut pas se poser la question?
Pas très à risque, c'est jamais arrivé là. Bon, ben voilà, ça arrive un jour. Mais, et alors effectivement, il y a le changement climatique qui fait que maintenant, il y a des zones qui n'étaient pas spécialement fragiles, peut-être qui sont un peu exposées, je ne sais pas exactement.
Qui le sont maintenant?
Oui, qui le sont maintenant.
Est-ce qu'on n'a pas fait... Non mais pardon, on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut passer aux élections américaines?
Dernier point. Pour des choses autrement, les incendies en Californie qui sont dramatiques, tragiques.
Il y en a souvent.
Ils vont avoir des conséquences sur les élections présidentielles américaines.
Ah bah, alors
parce que les habitants de la Californie, ils vont se poser la question en votant. Ils vont se poser la question. Est-ce que je vote pour Trump qui ne croit pas à la main de l'homme sur ce qui se passe actuellement, ou est-ce que je vais voter pour un Biden?
De toute façon, la Californie ne vote pas pour Trump.
Les accords de Paris. Et ce que je veux dire par là, c'est que
il y a une dimension philosophique, politique,
qui va se poser de plus en plus et qui va s'imposer à nos politiques.
Comme Michel Taube nous y invite, nous allons maintenant évoquer la campagne présidentielle américaine avec ce coup de théâtre, disons ça comme ça, la nuit dernière, puisque Donald Trump a été hospitalisé, victime du Covid. Vous avez vu cela comme moi. Il a tweeté qu'il allait bien. Son médecin a d'ailleurs fait une communication cet après-midi devant l'hôpital où il se trouve. Donald Trump va bien. On écoute ce médecin.
Ce matin, le président va très bien. L'équipe médicale et moi-même sommes pour le moment très contents des progrès effectués par le président. Jeudi, il avait une toux légère, une congestion nasale, de la fatigue. C'est en train de s'améliorer.
Bon, alors Michel Taube, vous aviez la parole. Qu'est-ce que cet événement change dans la campagne électorale américaine qu'on suit?
Comme vous le disiez, c'est un coup de théâtre. Et quel coup de théâtre? Depuis plusieurs semaines, on est nombreux à se poser la question. Est-ce que c'est Biden ou le Covid qui va peut-être battre Trump? Dans le sens où on sent bien que Biden a du mal à peser sur le bras de fer qu'il a avec Donald Trump. Et on voit bien que les dizaines de milliers de morts américains, le retard à l'allumage de Trump et la façon dont il a traité cette crise du Covid allait être déterminante de l'élection. Mais on ne pensait pas que ce serait à tel point. Parce que là, le Covid s'est saisi de Trump lui-même. Et donc, effectivement, en fonction de ce qui va se passer ces jours-ci, est-ce qu'il va tomber plus gravement malade ou est-ce qu'il va s'en ressortir considérablement? On va déjà avoir un élément clé pour le mois qui reste dans la campagne. Et puis après, effectivement, on rentre un petit peu dans l'inconnu parce que on était déjà dans une élection totalement hors norme avec un président qui déjà conteste les résultats à l'avance.
Avant même que le vote ait lieu.
Mais il va peut-être demander, pourquoi pas, un report de l'élection à plus tard, après le 3 novembre, ce qui juridiquement n'est pas possible. Mais avec Trump, tout est possible. Et le dernier point qui, moi, m'impressionne, c'est que Donald Trump est tellement transgressif par rapport à toutes les règles de civilité du débat politique qu'il a même utilisé un traitement qui n'est pas reconnu par les autorités sanitaires américaines. Donc il est à fond dans sa logique.
Il n'a pas pris un peu d'eau de Javel comme il préconisait autrefois. On débat de ces élections.
Mais il va vraiment
comme
au bout de sa logique transgressive. Et c'est
juste après, Michel Taube, juste après le Fil Info, Frédéric Beniada, 20h20.
L'arrière-pays niçois dévasté après le passage de la tempête Alex. La nuit dernière, la crue de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya ont alimenté le Var et provoqué un désastre sans précédent depuis plus d'un siècle. Jean Castex ne cache pas sa vive inquiétude quant au bilan définitif de ces intempéries. Plus d'une dizaine de personnes portées disparues, tout autant dont on est sans nouvelles. L'état de catastrophe naturelle a été décrété pour le département. Éric Ciotti, le député LR, lance un appel à la solidarité nationale. La décrue est amorcée. Ce soir, plus de 1000 pompiers restent mobilisés. On craint également de nombreux éboulements. Plus d'une centaine de maisons ont été détruites ou fortement endommagées, selon le maire de Nice, Christian Estrosi. Donald Trump va bien, il n'a pas de fièvre et n'est pas sous assistance respiratoire, affirme le médecin de la Maison Blanche. Le président américain a passé une première nuit à l'hôpital, testé positif au Covid. Il a reçu un traitement expérimental d'une dose d'un cocktail d'anticorps de synthèse qui n'a pas reçu la validation des autorités de santé américaines. En France, près de 17 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés en 24 heures. 849 patients en réanimation ce soir selon Santé publique France. Un drame familial dans un pavillon de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Un homme soupçonné d'avoir tué sa femme, ses deux enfants et ses deux neveux. L'auteur présumé des faits a été hospitalisé dans un état grave pour plusieurs plaies au couteau. Il s'en serait également pris à ses parents. Une journée nationale d'action pour réduire le trafic aérien. Des dizaines de personnes interpellées un peu partout en France pour avoir tenté de s'introduire sur les tarmacs. Journée d'action nationale à l'appel notamment de plusieurs associations écologistes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Rassurez-vous, Donald Trump va bien, oui, alors il est quand même à l'hôpital, il a quand même le Covid. Sommes-nous à un tournant de cette campagne électorale américaine, alors que nous sommes à un mois, hein, jour pour jour du scrutin, Hélène Plichowski?
Alors, est-ce qu'on est à un tournant? D'abord, on est à un choc, plutôt. Il n'y a pas de tournant,
Vous appelez ça comme ça, un choc.
Non, mais c'est pas
tournant.
Ça, mais on ne peut pas dire un tournant, ça veut dire est-ce que ça va virer contre lui éventuellement?
Eh ben, c'est la question que j'aimerais bien, à laquelle vous répondiez.
Non, mais je pense qu'il y a deux réactions possibles, si vous voulez. Soit il va y avoir ceux qui ne sont pas trumpistes, comme on dit, qui vont dire, ah ben bien sûr, il l'a bien mérité, il a été arrogant.
L'arroseur arrosé.
Voilà, l'arroseur arrosé, bien fait pour lui, il n'a pas voulu prendre les dispositions qu'on lui disait de prendre. D'ailleurs, je crois que c'est à l'occasion d'une réception à la Maison-Blanche hein, qu'il aurait été contaminé, parce qu'ils avaient invité...
Oui, c'était la réception pour la nomination de cette fameuse juge à la Cour suprême, dont on a déjà beaucoup débattu
voilà,
ici.
Voilà, donc voilà. Donc, il peut y avoir cette réaction-là qui ne fait qu'aggraver son cas, c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire, bah, évidemment, c'est lui, il n'est bon à rien, etc. Et c'est un...
C'était un premier cas de figure. Le deuxième, c'est quoi?
Le cas de figure, c'est qu'on peut dire à ce moment-là, quand même, il est malade, il est touché.
Il peut susciter la compassion.
La compassion. Il va tenir debout. Regardez-le, il est parti dignement, il a dit au revoir poliment à tout le monde, etc. Il est arrivé, il a dit je vais guérir, tout va bien. Voilà. Et on va dire, il est solide. Donc il peut y avoir.
Ça, c'est les deux hypothèses. Là, vous plaidez pour laquelle, vous pensez quoi?
C'est-à-dire, au niveau de la prédiction que je peux faire?
Oui. c'est ça, les infos,
il faut
se mouiller un peu.
Vous savez, il faut faire attention parce que.
Vous réfléchissez, Hélène.
Il est en avant dans les sondages, si on peut
dire. Trump ?
Bah oui, non.
Biden,
pardon. Et donc, Trump peut récupérer, moi je pense, son retard, on peut dire, peut-être.
Très bien, donc ça peut être au bénéfice de Trump, Arnaud Benedetti. Oui.
Alors c'est vrai que les derniers sondages montraient qu'il était en train de grignoter des positions sur Biden. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact aujourd'hui sur l'issue du scrutin? Je crois que personne ne peut le dire et la science politique certainement ne le dira jamais en l'occurrence.
Merci de faire progresser les notions.
Mais c'est vrai. La vérité c'est que par contre, en effet, le vrai sujet aujourd'hui pour Trump, c'est que il est saisi par le sujet qui le met dans l'embarras sur le plan électoral. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à la crise du Covid, on considérait que Trump serait réélu assez facilement face au candidat démocrate Joe Biden.
Il y a un an,
c'était au mois de mars. Les difficultés de Trump sur le plan électoral ont commencé à surgir avec la crise du Covid, parce qu'il avait un bilan autres Européens, nous paraissait critiquable, mais pour les Américains, il avait un bilan qui, sur le plan économique, était plutôt un bilan assez positif, en l'occurrence. Donc,
et l'économie est la question clé pour les Américains.
Là, le sujet, c'est qu'en fait, ça casse en plus. Alors, en termes d'image, par contre, en effet, moi, je trouve que ça casse l'image de l'homme, de cette espèce de mâle dominant qu'il veut donner, c'est-à-dire l'homme qui maîtrise les événements, qui domine, qui n'a pas peur. Donc, ça, en effet, ça vient d'une certaine manière casser cette image-là. Alors, est-ce que ça va avoir un effet? Est-ce que ça l'humanise d'une certaine manière et qu'une partie de l'électorat, finalement, va avoir une compassion pour Donald Trump à cause de cette faiblesse passagère, ou est-ce que tout simplement ça va finalement renforcer une partie de l'électorat qui va considérer qu'il a été en effet arrogant, imprévoyant, totalement imprévisible?
Vous nous disiez, vous n'en saviez rien.
Je pense que personne n'en sait rien.
Moi je dirais clairement avantage à Trump. Je pense qu'en effet ce côté empathie pour quelqu'un qui devient tout à coup ordinaire, alors il fait quand même des... Il est toujours particulier, c'est l'homme ordinaire mais qui a des traitements expérimentaux, là tout d'un coup
c'est le président normal pour vous, Trump.
Là il y a quelque chose de l'ordre de touché par
Hollande
la maladie
qui a déposé la marque, là.
Touché par la maladie avec sa femme, nous allons lutter contre. Il y a quelque chose qui en effet le rend un petit peu plus humain. Et vous avez vu cette capacité, il est comme le docteur Raoult pour le Covid, il est capable de dire tout et son contraire mais il l'assume.
Enfin Raoult est un scientifique quand même.
Il a quand même dit beaucoup de bêtises aussi, à peu près autant de bêtises que Trump, dit Raoult, et ils assument. C'est des personnes qui arrivent à assumer les choses, assumer leur changement, assumer l'évolution. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Arnaud, parce que oui, la chute de popularité, ça date du Covid, mais la question principale, c'est l'économique. Donc si l'économie bouge, ça va bouger. Donc le fait qu'il soit atteint par le Covid, c'est pas quelque part caractéristique de l'échec de son bilan, c'est une chose en plus. Et juste pour signaler, Boris Johnson et Bolsonaro, qui étaient aussi pas Covid compatibles. Ils ont gagné en popularité en étant malades. Parce que quelque part, on est touché. Il y a quelque chose d'humain. On est touché. Ça les rend plus ordinaire, cette espèce de Superman américain qui nous vend tout, qui fait des tweets à répétition. D'un coup, on se dit, bah oui, il est comme mon père ou mon frère, et il peut être malade.
Non, mais
et
voilà. Mais juste, avec Trump, on peut parler de tout. Donc, il faut quand même aussi envisager l'hypothèse la pire. C'est que quand même, le Covid, c'est une sale bête qui frappe de façon aveugle.
Imaginons, Donald Trump peut nous faire quelques débats.
Comme d'autres sources peuvent le laisser entendre, que ce que non, les propos rassurants des médecins...
On ne va rien imaginer du tout. Vous savez ce qu'on va faire ? On va boire un verre d'eau, on va écouter la météo, écouter l'info ensemble, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie des Informés.
La crise du Covid va-t-elle accélérer le passage du monde du travail au tout numérique? De quelles compétences va-t-on avoir besoin dans le monde de demain? Comment se former pour ne pas perdre pied? Quelles sont les entreprises et les secteurs à suivre? Le 6 octobre, France Info vous invite à assister à Poitiers à la soirée exceptionnelle « C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir ». Experts et témoins débattront autour de solutions concrètes. « C'est mon boulot », le 6 octobre, au salon de Blossac à Poitiers, un événement France Info. Réservation sur maisondelaradio.fr.
Avec le groupe Sorigy, accélérateur de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Avec Grand Poitiers, formation, insertion et innovation, une économie et un territoire au service de ses habitants.
Préparez-vous pour le défi Futur Robot. Le 7 octobre, partez à la rencontre des robots de demain. Le CNRS, en partenariat avec Combini Techno, vous propose une expérience unique. Un jeu de pistes numériques interactif pour toute la famille à la découverte de la robotique française. Rendez-vous en direct le mercredi 7 octobre à 17h30 sur les chaînes YouTube et Facebook du CNRS. Êtes-vous prêt pour Futur Robot?
D'accord, c'est parti.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Demain, nous allons continuer dans un registre de temps perturbé, dans des températures conformes à la saison, sous un ciel très variable dans l'ensemble et souvent beaucoup plus gris que bleu, avec des averses éparses le long de la Manche et près de la Belgique. Un temps plus menaçant et parfois orageux va s'établir en journée, de la Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne, au centre, au Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes à la Provence, avec des précipitations plus soutenues qu'ailleurs dans le quart sud-est, en particulier sur le sud de l'Aquitaine placé en vigilance orange. Le vent sera également de la partie avec des pointes à 80 km à l'heure sur les côtes, 70 dans l'intérieur.
20h30 sur France Info. On retrouve Maureen Suignard.
Le Premier ministre fait part de son inquiétude quant au bilan humain définitif dans les Alpes-Maritimes. Le Premier ministre a pris la parole cet après-midi depuis Nice, après les violentes intempéries de la nuit dernière. 8 disparus, dont 2 pompiers, un capitaine et un sapeur-pompier volontaire. Jean Castex évoque aussi de nombreuses personnes qui ne donnent pas de nouvelles. Les régions montagneuses sont particulièrement dévastées, des routes détruites, des villages coupés du monde sans possibilité de communiquer. D'importants moyens de secours reste déployé en ce moment, selon Franck Nicolas, le porte-parole du service d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Et nous avons déployé sur le terrain, entre les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et les renforts de toute la France qui nous ont été envoyés, près de 1000 sapeurs-pompiers. La priorité, c'est bien évidemment l'assistance aux personnes et les sauvetages et les mises en sécurité. Ces missions sont rendues compliquées par le fait que nous ne pouvons pas accéder par les voies routières habituelles jusqu'au cœur des villages de ces vallées encaissées des Alpes-Maritimes pour porter secours tel que nous savons le faire habituellement. Nous avons dû ouvrir des voies quand c'était possible, mettre en place de véritables ponts aériens au moyen d'hélicoptères, à la fois de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, de l'armée, pour pouvoir acheminer du matériel, acheminer des renforts et évacuer les personnes de première nécessité.
Et la procédure de catastrophe naturelle est déjà enclenchée et doit être déclarée en Conseil des ministres mercredi prochain. Météo France place encore 3 départements en vigilance orange face au risque de pluie et d'inondation. Les Côtes d'Armor, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Près de 17 000 nouveaux cas de coronavirus détectés en France en 24 heures. Les derniers chiffres dévoilés par Santé publique France. 49 morts de plus qu'hier également. Donald Trump Trump, lui, va très bien. C'est ce qu'indique le médecin de la Maison Blanche, alors que le président américain malade du Covid-19 est désormais hospitalisé. Ce même médecin assure que la fièvre est tombée et que le chef d'État, en pleine campagne pour tenter de se faire réélire dans un mois, n'a pas besoin d'assistance respiratoire. La Française Fariba Adelka, libérée temporairement pour cause médicale, c'est son avocat qui l'annonce. La chercheuse franco-iranienne détenue depuis un an à Téhéran, en Iran, elle porte un bracelet électronique. La chercheuse a été condamnée à 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale et propagande contre le régime. Une réélection de justesse pour Bernard Laporte. Il reste à la tête de la Fédération française de rugby. Réélection au terme d'une campagne houleuse où Bernard Laporte a été placé en garde à vue dans une enquête pour des soupçons de favoritisme. Dans une demi-heure, la suite de la 6e journée de Ligue 1 avec Nice qui reçoit Nantes. 20h et 33 minutes sur France Info, la suite des informés avec Olivier Delagarde et ses invités.
Les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie d'Hélène Plichowski, éditorialiste politique, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, également avec nous, Émilie Zapalski, communicante, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil, et puis Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Allez, venons-en à la politique française, je sais que vous adorez ça, que vous attendez ce moment avec impatience, et ce plan de bataille contre l'islamisme radical qu'a exposé Emmanuel Macron, le président de la République, qui a un peu surpris les commentateurs par sa détermination sur un sujet tout de même loin de faire l'unanimité dans sa propre majorité. Il n'a pas parlé notamment de lutte contre les séparatismes, mais a dénoncé clairement le danger de l'islamisme radical. Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, était l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. On l'écoute.
Le président a nommé, je crois, de façon très courageuse, la menace principale qui existe à l'heure actuelle. Et cette menace, c'est celle de l'islamisme, d'un islam radical. Et donc, je crois que c'était important que le président nomme cette menace, mais tout en se gardant bien de toute stigmatisation. Et là aussi, je crois que le président a dit lui-même, je vais décevoir les gens qui veulent des caricatures et qui veulent me voir faire des amalgames. Il l'a dit très clairement.
Voilà, Marlène Schiappa sur France Inter, Émilie Zapalski. Alors là, c'est pas le en même temps, hein, Emmanuel Macron a parlé clair. C'est une surprise?
C'est une surprise parce qu'on l'attendait depuis longtemps sur ce sujet et c'est vrai que c'était un discours qui était assez équilibré. Moi, j'ai l'impression qu'il est allé quand même dans ce sujet. Comme l'a dit Marlène Schiappa, il a nommé les choses et il a nommé notamment l'islamisme radical qui est quand même le point le plus gros du séparatisme. Donc il n'a pas hésité à le nommer et ça je pense que c'est important. J'ai trouvé aussi qu'il était clair au-delà du discours dans ses réponses aux journalistes, notamment sur la question du voile. Moi ça m'a fait plaisir, quelqu'un qui se positionnait ni pour ni contre, qui disait qu'il y avait un bon voile ou un mauvais voile, une personne qui porterait le voile parce qu'on l'a obligé et une personne qui porterait le voile parce que c'est son choix.
Alors notamment les mamans accompagnant les enfants lors des sorties scolaires auront le droit de porter le voile quand la loi sera évidemment passée. Oui. C'est quelque chose qui froisse un peu Jean-Michel Blanquer.
Voilà, c'était pas le positionnement de Jean-Michel Blanquer. Moi j'ai eu l'impression qu'avec ce discours Emmanuel Macron s'est respecté, c'est-à-dire qu'il était tiraillé vers des éléments qui comme Jean-Michel Blanquer qui voulait aller plus loin, peut-être Darmanin aussi, et lui peut-être qu'il n'est pas sur ce positionnement-là, et là il s'est respecté. Après il y a des questions qui se posent. Est-ce que tout ce qu'il a dit va être fait? Est-ce que c'est faisable, ne serait-ce que l'école à 3 ans obligatoire dans les lieux de l'école? Est-ce que c'est faisable même constitutionnellement? Est-ce que c'est souhaitable? Et puis moi il y a la question quand même de la mixité sociale. Moi je pense qu'il y a énormément de questions qui se posent. On l'attaque aux primaires, c'est bien, il y a le collège aussi. Moi je me dirais, au-delà de ces discours et de ces actes, c'est aussi la population. Est-ce qu'on a vraiment envie de cette mixité sociale? L'école publique, elle est désertée de plus en plus, en tout cas moi je le vois à Paris. Est-ce qu'on a vraiment cette velléité de se mélanger? Je trouve qu'avec ce discours il commence à poser les choses, c'est assez clair, et on va voir après dans les faits, parce qu'on a la loi qui arrive quand même tardivement fin décembre.
On vous aurait à nouveau la parole.
Mais il y a déjà quelque chose qui se pose.
Arnaud Benedetti, est-ce que on a assisté à une sorte de conversion d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas toujours été sur cette ligne.
Oui, vous avez raison de rappeler qu'il aura mis 3 ans et demi à commencer à traiter le problème, parce que finalement, la difficulté d'Emmanuel Macron, c'était un sujet qu'il avait totalement occulté durant sa campagne présidentielle. Il avait une vision de la société qui était une vision assez idéaliste, finalement, d'une société irénique où les cohabitations communautaires pourraient finalement se faire sans difficulté à partir du moment où le moteur économique redémarrait. C'était cette vision-là, la vision d'Emmanuel Macron. Là, il est confronté au réel. Alors, il lutte contre l'islamisme radical. Moi, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, l'islamisme radical. Hein, parce que l'islamisme, il est par construction radical, hein, en l'occurrence. C'est exactement... C'est quasiment un pléonasme. C'est l'islamisme, tout simplement.
Mais ce n'est pas l'islam.
C'était un discours, c'était un discours équilibré, parce qu'il fallait tout simplement d'abord qu'il montre qu'il prenait à bras-le-corps un problème qui, aujourd'hui, est très fort dans l'opinion publique. Donc, ça, c'était, je pense, l'un des objectifs, en effet, de son discours. En plus, il y a vraisemblablement chez lui la nécessité aujourd'hui, à travers ses dispositions, d'arrimer un électorat de droite, voire de centre-droit, voire de droite.
Bah, on va encore dire que Emmanuel Macron fait la politique de droite.
C'est une réalité, en l'occurrence, donc c'est un choix. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, c'est, disons, au pied du mur qu'on va quelque part, et vous l'avez justement dit, mesurer l'œuvre du maçon, parce que, en effet, le dispositif qu'il propose sont des mesures de bon sens qu'un certain nombre de spécialistes de cette question proposent depuis des années et des années. Il les intègre. Il va quand même y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes de légalité administrative. Il va y avoir des problèmes de constitutionnalité sur un certain nombre de ces mesures qui vont se poser très rapidement.
Tous ces problèmes vont nous faire d'excellents débats pendant tout l'automne aux informés. Donc, on n'y a pas trop de mal, Michel Taube, sinon sur ce discours et cette volonté présidentielle.
Au niveau de la vision du discours, je pense que c'était vraiment un bon discours. Effectivement, il a trouvé l'équilibre que l'on attendait pour dire aux Français, effectivement, il y a un seul séparatisme qu'il faut traiter à bras-le-corps, c'est l'islamisme ou l'islamisme radical.
On ne parle pas après, des autres séparatismes.
Quel autre séparatisme? Au nom de quel séparatisme a-t-on posé des bombes, tué des innocents, mis des dizaines de milliers de nos enfants dans l'enseignement à domicile pour qu'ils échappent à l'école de la République? Donc, effectivement, il était temps que les choses soient clarifiées. Mais après, le discours d'Emmanuel Macron, il s'appelle « La République en acte », au pluriel. « La République en acte ». Et là, franchement... aux informés de France Info, vous n'allez pas pouvoir en discuter jusqu'en décembre. Ça va continuer jusqu'en juin l'année prochaine, minimum. Parce qu'en fait, le 9 décembre, qui est la journée de la laïcité, effectivement, le projet de loi va être présenté au Conseil des ministres. Mais ensuite, ça va partir au Parlement. Ça va mettre des mois et des mois. Bref, nous n'en verrons les concrétisations concrètes, les actes de cette République en acte.
Avant la prochaine présidentielle.
Exactement. Peut-être. Et c'est vrai qu'au regard de l'aggravation de la situation dans notre pays, on a franchement perdu 3 ans et demi. Et la réalité, c'est qu'on a perdu un quinquennat entier. Voilà ce que je voulais dire.
Débat se poursuit sur France Info. 20h40 d'abord, le Fil Info. Après, ce sera à vous, Hélène Plichowski. Rassurez-vous. Mais là, c'est le moment de Frédéric Beniada.
Un Premier ministre très inquiet qui a pris la parole ce soir à Nice quant au bilan humain des victimes des intempéries dans les Alpes-Maritimes. 8 personnes sont toujours recherchées et l'on est sans nouvelles de nombreux autres. La procédure de catastrophe naturelle a été décrétée. Il est tombé la nuit dernière plus de la moitié de la pluviométrie annuelle du département. De nombreux ponts, des routes et des maisons ont été emportés par les crues de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, venues alimenter le Var. Plus d'une centaine de maisons ont été détruites ou endommagées. Dans le Piémont également, la tempête a fait au moins 2 morts et 20 de disparus. Les secours qualifient la situation ce soir d'extrêmement critique. En Suisse, plusieurs villages sont également isolés après des glissements de terrain, mais pas de victimes pour l'instant. Des questions ce soir sur l'état de santé de Donald Trump. Si le médecin de la Maison-Blanche s'affirme qu'il va bien, qu'il n'a pas de fièvre et qu'il n'est pas sous assistance respiratoire, d'autres sources affirment que l'état de santé du président américain était ces dernières 24 heures très inquiétant. Nous n'avons pas toujours emprunté une voie claire vers le rétablissement, déclare cette source, sous condition d'anonymat. C'était une audience très attendue aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015 avec l'audition comme témoin de Farid Benyettou, ancien émir autoproclamé, mentor des frères Kouachi. Cet ex-prédicateur aurait joué un rôle clé dans leur radicalisation. Il se dit aujourd'hui repenti. L'exploit d'une Française cet après-midi à Roland-Garros, Fiona Ferro qualifiée pour son premier huitième de finale. Elle a battu la Roumaine Patricia Tig, 18e victoire consécutive pour la 49e mondiale. Et puis une déception en revanche pour Clara Burel, sortie par la chinoise Zhang. La suite de la 6e journée du championnat de France de football de Ligue 1, Lens se hisse provisoirement à la 2e place après sa victoire sur Saint-Etienne en début de soirée, 2-0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et la bataille contre l'islamisme radical est lancée. On en débat ce soir dans les informés. Emmanuel Macron, on le disait, n'a pas tourné autour du pot, pointant expressément le doigt sur les fondamentalismes islamiques radicaux. Ce qui n'a pas été d'ailleurs du goût d'une partie de la gauche. Écoutez la députée de la France Insoumise, Danielle Obonneau.
C'est tellement plus facile, en fait, de pointer du doigt et d'agiter l'islam, l'islamisme, l'islam politique et je ne sais quels autres amalgames pour cacher la vérité. Ce qui met aujourd'hui en danger la République, ce sont les politiques austéritaires de ce gouvernement.
Les politiques austéritaires pointées du doigt par Danielle Obonneau. Elle a raison, Hélène Pilichowski ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tout le travail, le raisonnement d'Emmanuel Macron a essayé justement de lancer une sorte de lutte. Vous avez parlé de guerre. On disait est-ce qu'on est en guerre contre l'islamisme radical. Bon, bref.
Une bataille.
Oui, mais c'est pas tout à fait ça.
On est en guerre. Parce qu'il y a des morts et il y a des personnes qui veulent la destruction de notre République et qui en plus sont français. Oui, donc je considère qu'on est en guerre.
Non, mais son plan, c'est pas de développer une guerre, c'est d'essayer de transformer finalement la façon dont on peut gérer les musulmans, la classe musulmane en France, sans justement les préparer à rester ensemble pour ne pas dévier de la République. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable en lui, c'est que justement, il a réussi. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'il dit. Il a réussi quand même à trouver une manière, un certain nombre de mesures. Un plan, en quelque sorte, de prévention de l'aggravation de la situation, et surtout de se dire, voilà ce qu'on peut faire avec ceux qui sont tentés par le séparatisme, on peut leur apprendre à aimer de nouveau la République, et en particulier les enfants. Si nos enfants n'aiment pas la République, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai trouvé ça assez formidable, c'est-à-dire ce plan d'action pour permettre aux musulmans d'être mieux intégrés et de ne pas être tentés précisément par le séparatisme. Le séparatisme, c'est-à-dire la volonté de quitter la République où on se trouve pour mener une autre vie. Bon, moi j'ai trouvé ça formidable. Et quand vous dites qu'il a perdu 3 ans, il n'a pas perdu 3 ans, parce que son discours, c'était un résumé de toute sa réflexion et de tous les gens. Il a mené énormément...
C'est peut-être
la
France qui a perdu 3 ans.
Je reste absolument convaincu que plutôt que de commencer par un discours au Collège des Bernardins sur sa relation au catholicisme, il aurait dû commencer par le discours sur le séparatisme islamique. Parce que c'est celui-là le problème aujourd'hui de la société française sur le plan des communautarismes par rapport à la République. C'était pas la question du rapport personnel du chef de l'État. Alors je sais qu'on est dans une monarchie républicaine et que tout tourne autour de la personne du président de la République. Mais encore une fois, il y a une erreur stratégique qui a, à mon avis, des raisons très profondes et qui effectivement... Rassurons-nous, les services de l'État, les services de renseignement, la police, l'armée ont travaillé ces 3 ans et demi. Discours du chef de l'État, là, on a perdu 3 ans.
Pour en revenir à la question et à l'opinion, j'arriverai à poser ma question, vous savez, je vais y arriver. Pour en revenir à ce que disait finalement Danielle Obonneau, est-ce que la société française a, ou non, une part de responsabilité dans la montée de cet islamisme radical? Parce que c'est une opinion qui est largement partagée à gauche.
C'est pour ça que le risque électoral, et quand vous parliez tout à l'heure, Arnaud, d'un discours équilibré, c'était à la fois taper suffisamment à droite pour gagner cet électorat qui veut absolument gagner, et en même temps continuer à parler à sa gauche, parce qu'il va falloir le voter, ce texte. Et on l'avait vu au moment de la loi Asile et Immigration, elle a a été revu à la baisse parce que justement, dans la majorité, les gens qui sont plutôt à gauche ne voulaient pas aller trop loin. Donc quelque part, il fait cet équilibre à la fois pour son futur électorat et à la fois pour sa majorité. Je mentionnerai juste un tout petit détail sur quand on disait qu'il est dans le discours, il a fait un petit rattrapage, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, sur le rapport Borloo qui a fini à la poubelle. Il a quand même réussi à dire, on a passé les trois quarts des mesures ont été réalisées. Ça ne veut rien dire. On en met un rapport à la poubelle et de l'autre côté,
comme
on réalise
quoi,
les mesures.
Des mâles blancs.
Non, mais donc ça veut dire que quelque part, il est mal à l'aise sur les actions. Et je pense que ça, c'est là où cet affichage, il sert pour la suite et pour, on imagine bien, 2022. C'est quand même un affichage. Il est très réussi à voir après pour la suite.
Sur le sujet de la responsabilité de la société française, moi, je pense que, bien évidemment, la société française n'est pas responsable, en l'occurrence. C'est un discours qui est extrêmement victimaire de la part d'une partie de la gauche qui vise à faire culpabiliser l'État. La vraie difficulté aujourd'hui...
Et les Français.
Ouais. La vraie difficulté, finalement, c'est comment un État laïque, comme l'État laïque français, qui est, de ce point de vue-là, assez exceptionnel. Il n'y a pas une conception de la laïcité qui soit similaire à celle de la laïcité en France, dans le monde. Comment on a eu une politique de la ville où on a investi depuis des années et des années un certain nombre de sommes considérables. Donc dire que l'État n'a pas été présent, je pense que c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait à la réalité. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, le défi qui se pose aujourd'hui pour la République et la conception de la laïcité de la République, c'est comment nous sommes capables de métaboliser une religion comme l'islam. C'est ça le vrai défi auquel est confrontée aujourd'hui la classe politique et la classe dirigeante, au-delà d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas un texte de loi qui, certes, arrive quand même au bon moment parce qu'il est nécessaire, qui va résoudre cette question, qui est une très grande question, qui est un vrai défi pour la République.
Est-ce qu'on peut en parler entendre ça, je trouve que c'est triste parce qu'il a quand même parlé de ghettoisation et il faut le dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, problème à afficher ça et à se dire on a créé des quartiers entiers où on a dit venez, on vous accueille, mais on vous met au même endroit. Il n'y a plus la police qui passe pas parce qu'il n'y a plus la sécurité. On vous laisse tranquille, on veut pas se mélanger. Finalement, c'est ce qu'on a dit. On a dit vous allez aux abords, vous vous débrouillez, on vous abandonne un peu, on vous lâche des milliards. En effet, il y a eu combien 80 milliards de données pour d'euros de données pour les banlieues. Mais on le dit, quand est-ce qu'on attaque vraiment le problème? Oui, on est fautif, parce qu'on a accueilli sans vraiment accueillir. Alors, il faut juste le reconnaître, c'est pas très grave de le reconnaître.
Si, mais il a reconnu beaucoup de choses.
Il l'a dit,
y compris le rôle de notre pays qui est un pays colonialiste. Hein. Oui. Il a dit, et c'est ça c'est très important, il a dit qu'il était désolé d'y revenir.
Crime
mais que ça
contre
avait...
l'humanité. Voililà. On se souvient petite phrase.
Il a parlé de logement, il a parlé de révision sur le logement.
C'est quand même une opinion qui n'est pas partagée par la majorité de l'opinion publique française aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, la majorité des Français ne considère pas que nous devons avoir une politique de repentance vis-à-vis de notre histoire, y compris vis-à-vis de notre histoire coloniale. C'est là qu'il est, si vous voulez, dans l'ambiguïté quand même. C'est que fondamentalement, en effet, il comprend très bien qu'il y a une demande de l'opinion publique d'afficher un discours de fermeté, mais en même temps, il essaye de ménager sa gauche en disant, oui, il y a une responsabilité sociale de l'État et il y a une responsabilité historique sur la mémoire. Oui. Ça, une résurgence en même temps sur cette question qui demande des positions.
Je pense qu'il a fini en même temps. Et notamment sur la question principielle, il l'a d'ailleurs écarté. Il a dit il ne veut pas parler d'islam de France. Mais justement, l'enjeu, c'était d'arriver à séculariser l'islam dans un État laïque comme la France. Et il a écarté cette option en disant non, on ne va pas créer un islam de France. Et d'ailleurs, il a décidé de continuer à travailler avec le CFCM qui existe déjà, qui est en place, qui manque considérablement de moyens et dont certains des membres d'ailleurs ne sont pas les plus modernes des.
Le président était très heureux
de
vous voir. Vous écoutez France Info, vous avez bien raison. La suite des informés dans un instant, juste après le fil info, Frédéric Beniada.
L'arrière-pays niçois plongé dans la désolation. Jean Castex à Nice, aujourd'hui au chevet des sinistrés des Alpes-Maritimes. Le Premier ministre annonce le déclenchement de la procédure de catastrophe naturelle après les violentes pluies torrentielles de ces dernières 24 heures. Ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts. Au moins 8 personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs autres n'ont pas donné de nouvelles. Jean Castex qui a exprimé sa plus vive inquiétude quant aux victimes potentielles. Il est tombé la nuit dernière plus de la moitié de la pluviométrie annuelle du département. De nombreux des routes et des maisons ont été emportées par les crues de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée venues alimenter le Var. Conséquence, des villages entiers coupés du monde ce soir sans moyens de communication, sans eau et sans électricité.
L'armée a été appelée en renfort. La tempête Alex a également provoqué d'importants dégâts sur la partie italienne de l'arrière-pays niçois, dans le Piémont, notamment avec les mêmes images de désolation dans la région de Vintimille. Un pompier est mort en intervention, on dénombre plus d'une vingtaine de disparus. Dans l'actualité également, les questions aux États-Unis après l'hospitalisation hier de Donald Trump, positif au Covid. Le président américain va très bien, il n'est pas sous assistance respiratoire, il n'a pas de fièvre et ne présente pas de signes de complications, indique ce soir le médecin de la Maison Blanche. Et puis cette polémique autour du traitement reçu par Donald Trump, une dose d'un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse, un médicament prometteur mais peu testé et non validé par les autorités de santé. Une quarantaine de personnes interpellées après avoir tenté d'investir plusieurs aéroports pour une journée de réduction du trafic aérien, journée d'action nationale à l'appel notamment d'associations écologistes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, on passe à notre dernier débat et c'est la lecture d'un petit article du Parisien ce matin qui a fait tilt chez moi. Vous voyez, je vous donne mes sources. On y apprend qu'un service de nettoyage dépendant de la mairie de Paris a effacé par erreur une œuvre de Banksy. Alors Banksy, c'est un street artiste aujourd'hui de renommée mondiale. Il avait peint sur un des murs du 5e arrondissement un rat avec un nœud rouge à pois blanc. Alors la mairie a reconnu l'erreur. La question est évidemment de savoir ce qu'il faut faire de ces œuvres. Qui décide de ce qui est une œuvre d'art à conserver? Qui décide que tout ça est un graffiti à nettoyer? Qu'est-ce que vous
en pensez? Mais je ne sais pas si le graffiti, par essence, peut se ranger dans l'art. Parce que l'art a certaines règles. Il faut un jugement de l'art. Donc c'est ça, c'est compliqué. Ça existe depuis l'Antiquité, hein, les graffitis.
Ah, mais depuis les hommes des cavernes.
Exprimer de la colère, exprimer. Voilà, il y a ça. Voilà, de l'agacement. Donc c'est un moyen de communication en fait assez ancien, de messieurs.
Bon, mais je sens que le street art n'est pas votre truc.
Ah bah oui,
moi je trouve que ça doit être.
Je suis très choqué par ce que vous dites, parce que franchement le street art, c'est l'art du graffiti et c'est de l'art. Il y a même un marché de l'art du graffiti et d'ailleurs.
Oui, un marché qui est.
Ah bah si, il y a un vrai marché de l'art.
Je savais que vous. Est-ce qu'on peut laisser tout le monde s'exprimer de cette façon-là dans la rue? Moi, je dis pourquoi pas.
Alors, il y en a un qui est malin, c'est mairie du 13e. Qui a utilisé justement ces fresques là, voilà, Jérôme Coumet, pour en faire un véritable atout du 13e. Donc il y a des fresques. Donc là c'est autorisé, c'est commandé. Là c'est commandé, des fresques monumentales. Il s'en saisit pour faire de la com énormément. On voit tout le montage des fresques, on voit tout le truc. Il y a tout un parcours qui est organisé. Pourquoi pas? C'est ce qui est gênant.
Mais c'est pas une œuvre. Je vous ai même coupé tout là. Très bien.
Bah si Kessaring, c'est pas un artiste.
Moi je suis plus
une femme. Non, mais est-ce qu'on peut les qualifier d'œuvres d'art et leur donner l'intérêt que mérite une œuvre plus importante? C'est ça le problème, c'est de se ranger dans la catégorie des œuvres, qui est quelque chose qui est reconnu par
ça se fait de soi.
L'art est dédié et le seul à se taire. Donc on va lui donner la parole.
Non, je me débat, mais c'est un débat extrêmement intéressant parce que c'est un débat qui est vieux comme la Terre. Parce que de savoir si, je veux dire, une œuvre.
Vous voulez pas me laisser poser ma question?
Pardon, excusez-moi, allez-y.
Vous allez voir que j'ai un mur. Il y a un artiste qui vient faire une œuvre d'art dessus. À qui appartient cette œuvre d'art? Est-ce que j'ai le droit de l'effacer ou pas? Comment ça se passe?
Ben, si c'est sur votre mur, en principe, vous avez le droit de l'effacer.
Gagné,
en
attendez,
la raison, si c'est clair. Ça. Après,
si c'est un Banksy,
vous pouvez peut-être le garder. Enfin, vous faites un bon investissement, en l'occurrence.
Vous vendez votre mur aux enchères. Vous allez voir, ça va vous rapporter beaucoup.
Parce que ce que dit Hélène, finalement, est-ce qu'une forme d'expression, à partir de quel moment, elle accède au statut d'œuvre d'art? C'est un sujet qui, d'une certaine manière, scande l'histoire de l'art depuis que l'art existe. Souvenez-vous, les impressionnistes, quand les impressionnistes commencent à faire leur exposition contre une certaine forme d'académisme. En l'occurrence, vous avez tout le milieu académique qui, à la fin du 19e, s'élève contre cette forme d'art, considérant que c'est tout simplement une transgression par rapport au canon académique. Finalement, qu'est-ce qui va juger, en l'occurrence? C'est l'histoire qui jugera si c'est une forme d'art ou si ça ne l'est pas. Mais en l'occurrence, manifestement, on voit bien qu'il y a des formes nouvelles qui sont en train de s'exprimer et qu'il y a de fortes chances, au regard de ce qu'on sait de l'histoire de l'art, qu'elles accèdent au statut d'œuvre d'art.
Michel Taube.
Le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup de violence dans tout ça. Parce que, effectivement, le graffiti, ce qui pour moi est souvent de l'art, pas toujours, mais souvent de l'art, et il y a des œuvres d'art, et je le répète, il y a un marché, il y a des amoureux, des œuvres de Banksy, et de beaucoup d'autres graffeurs. Et notamment beaucoup de gens. Mais c'est un art qui est violent. C'est un art qui descend dans la rue, c'est un art qui s'adresse à nous directement. C'est pas un art qu'on va voir
dans la violence. C'est pas quelque chose de nouveau, la violence dans l'art.
Non, c'est un mode d'expression de la colère.
C'est un art. Pour voir Kessaring, pour voir Basquiat, il faut aller dans les musées. Hein.
C'est vrai, mais il y a beaucoup de graffeurs qui choisissent la rue, et pas pour rien, parce que justement, ils veulent avoir un rapport à une société qui est de plus en plus violente, il faut le dire, et qu'ils investissent pour justement exprimer leur colère et leur rapport à la société. Et il y a certaines œuvres, effectivement, où il y a certains graffs qui sont devenus en fait des manifestes politiques, notamment sur les violences policières, sur les violences urbaines, dont pour certains ce ne sont pas des œuvres d'art, mais qui utilisent l'art pour s'exprimer. Après, imaginez que demain, il y ait un graffeur qui fasse un beau tag dans lequel il est écrit sale juif, sale arabe ou je ne sais quoi, évidemment qu'on les ferait tout de suite enlever, et ce serait très bien de le faire, et qui sait qui le contexterait. Donc effectivement, il y a une limite, il y a un ordre public, il y a des valeurs à respecter dans l'art comme dans toute chose de la vie, mais effectivement je pense que c'est de l'art, il faut le respecter.
C'est la fin des informés. Il va falloir maintenant nous séparer, vous allez reprendre vos mornes existences jusqu'à une prochaine émission, vous serez réinvité. Bien entendu, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 20h. Passez d'ici là une excellente soirée, et puis restez avec nous. L'info continue sur France Info.